Dans l'épisode des rameaux, Jésus entre dans Jérusalem assis sur un âne, sur un ânon, en fait, nous disent les évangiles, pour être acclamé comme le Messie attendu. J'ai déjà prêché sur l'âne, l'an dernier, je crois, et j'avais dit alors deux choses, l'une qui est vraie et l'autre qui était une ânerie, je crois. Ce qui est vrai, c'est que cette monture de l'âne, certains disent que c'était une preuve d'humilité, pas du tout. Les rois montaient aussi sur des ânes. Le simple fait que ce soit un âne et pas un cheval, c'est que le cheval servait à la guerre et l'âne était une monture pour la paix. Et donc, ça prouve que Jésus entre comme roi, mais ce n'est pas un roi guerrier, c'est un roi de paix. Il n'est pas un messie politique, mais un messie intérieur et spirituel. Ça, c'est vrai. Ensuite, j'avais parlé de la fête de l'âne au Moyen-Âge, qui valorisait l'âne en tant qu'il avait un son discordant et que tout le monde le considérait comme un idiot, alors qu'en fait, il était peut-être beaucoup plus sage qu'on ne pense. Et c'était un appel aux croyants et aux chrétiens de dire « Ayez le courage d'avoir une parole peut-être discordante et peut-être dérangeante dans le monde, avoir le courage d'être différent du reste et de ne pas se confondre dans le monde. » Parce que, en effet, la sagesse de Dieu est folie pour les hommes, nous dit Paul, et celui qui est sage aux yeux de Dieu est forcément un peu considéré comme fou pour les hommes. L'idée est juste. Je vous disais que c'est une ânerie parce que je crois que c'est faux d'un point de vue biblique. L'âne, je n'ai jamais vu nulle part qu'il soit compris comme ça, donc je le laisse de côté. Mais je suis revenu sur cette question de l'âne qui décidément me tracasse parce qu'il y a dans l'évangile une précision particulière nous disant que Jésus monte non pas tellement sur un âne, mais on nous dit sur un ânon, le petit d'une ânesse. Tiens, ça c'est intéressant, pourquoi un ânon, le petit d'une ânesse? Si c'était pour dire ce que je vous avais servi l'an dernier, un âne suffisait. Mais non, c'est un ânon. Alors bien sûr, vous me direz, c'est une citation de Zacharie 9:9, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, car voici ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, un ânon le petit d'une ânesse. » Donc d'accord, on annonce un Messie qui n'est pas guerrier ni puissant, je vous l'ai dit, mais ce verset est cité par les évangiles à cet instant, dans cet épisode. Et il y a toujours conservé cette précision qu'il s'agit d'un ânon. Et dans Matthieu et Jean, en plus, on rajoute l'ânesse. Donc l'ânesse et l'ânon. Pourquoi cette précision particulière à laquelle les évangiles semblent attacher tant d'importance? Alors ma première réaction, c'est de penser que il y a là la valorisation de deux éléments essentiels de notre humanité. En effet, l'âne représente souvent dans la Bible notre humanité terrestre, en quelque sorte. Donc, deux éléments essentiels de l'humanité qui peuvent nous servir du meilleur véhicule qui soit pour avancer avec le Christ. C'est la féminité, la maternité, et c'est le fait d'être un enfant. Ces deux choses-là sont absolument essentielles, et c'est donné à tout le monde, que vous soyez femme, mère, ou que vous soyez homme et sans enfant, ou que vous soyez jeune ou vieux. C'est un état d'esprit, c'est une façon d'être qui sont absolument fondamentales pour avancer, je crois, dans la vie. Parce que être mère, c'est avoir la capacité d'enfanter, de la capacité de transmission, de pouvoir donner la vie. C'est l'attention aux plus petits, l'attention à l'autre, d'accompagner les autres. C'est ce qu'aujourd'hui on appelle par ce mot anglais qui m'agace le care, c'est-à-dire prendre soin. Et ça, c'est justement une des valeurs les plus essentielles, plus que le guerrier qui a force et de choses qui pourraient imposer. Mais l'attention. Et quant à l'enfant, représenté là par l'ânon, eh bien l'enfant, il est intéressant parce que Il n'est pas fini, en fait. C'est un adulte en devenir. Donc, c'est-à-dire que l'enfant est une promesse de vie et une ouverture vers tous les possibles. Ça, c'est impressionnant quand je vois chaque fois un enfant que je bâtis, je me dis, mais en fait, il peut devenir plein de choses, alors que pour moi, les possibles se réduisent considérablement. Et donc, Jésus, je crois, nous dit là que nous pouvons cheminer et qu'il peut cheminer en nous dans ces deux dimensions fondamentales qui sont notre capacité à transmettre, à donner la vie, à enfanter, je vous l'ai dit, et cette autre capacité à celle d'être un enfant, c'est-à-dire de croire dans l'avenir, d'être dans le devenir, de savoir progresser et grandir. Alors cette valorisation de l'enfant, d'abord, elle est exprimée souvent dans l'Évangile, d'abord explicitement par ce passage que vous connaissez quand Jésus accueille les petits-enfants et qu'il dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent ». Et puis, nous, chrétiens, on valorise cette dimension de la promesse et de l'enfant dans la fête de Noël, bien sûr. Et cette importance de l'enfant que je vois dans cette précision que Jésus doit monter sur un ânon, donc sur le petit d'un âne, cette importance de l'enfant comme promesse, je crois que c'est très important, en fait, et qu'il est bon d'y prêter vraiment attention. Parce que croire dans la promesse, c'est en fait croire dans l'avenir, c'est croire dans le futur. Et c'est se dire, oui, s'il y a un enfant, s'il y a un ânon, c'est que je crois qu'il y a un futur possible, qu'il y a un avenir possible, qu'il y a une joie possible, qu'il y a un amour possible. Et ça, c'est le premier point fondamental sur lequel le Christ peut avancer. Si on n'a pas ça, eh bien, on est immobilisé, on est piégé. Et si on n'a pas cette foi dans l'avenir, je dirais, cette croyance dans le futur possible, alors on est piégé et alors on n'a aucune monture pour avancer, on n'a aucune dynamique pour pouvoir faire même quelque chose de notre vie. On ne peut plus cheminer où que ce soit dans cette grande ville de notre existence et même parmi le monde, et on est totalement coincé, en fait. Donc il faut effectivement trouver cette dynamique possible de foi dans l'avenir. Rien n'est plus triste que ceux qui ne croient pas dans l'avenir, que ceux qui n'ont plus d'espérance. D'une certaine manière, ils sont déjà morts. Parce que croire dans l'avenir, c'est vouloir être soi-même mère, comme l'ânesse, je dirais, c'est croire qu'on a une capacité à donner la vie, croire que l'on peut transmettre quelque chose, qu'on peut construire quelque chose. C'est fondamental et essentiel. Et je dis cela parce que aujourd'hui, on nous dit que il y a, vous savez, des jeunes couples qui ne veulent pas d'enfants en disant, en fait, nous avons peur pour eux ou nous ne croyons plus dans l'avenir. Mais quelle tristesse! C'est effroyable comme idée. Ça veut dire que ces pauvres gens, d'une certaine façon, sont déjà morts eux-mêmes. S'ils ne croient pas dans l'avenir, s'ils ne croient pas dans la possibilité de transmission et du don de la vie, c'est terrible comme désespérance et je dirais comme manque de foi. Je pense que parmi les témoignages de foi que nous avons dans notre Église et qui sont les plus belles choses qui soient, il y a tous ces actes pastoraux que l'on fait, il y a le mariage, qui est une vraie profession de foi, et le baptême, qui est une vraie profession de foi, et de dire, je crois, que quoi qu'il arrive, réchauffement par réchauffement, islam, Russie, tout ce que vous voulez, quoi qu'il arrive, je crois qu'il y a une vie possible. Et si on perd cette capacité à croire dans l'avenir, ben, même pour soi, il n'y a plus de vie possible. Ça, vous savez, c'est ce qui est écrit, c'est ce que Dante dit qu'il avait écrit à l'entrée de l'enfer. « Toi qui entres ici, abandonne toute espérance. » C'est vrai, celui qui abandonne toute espérance, d'une certaine façon, il est déjà en enfer. Et donc, si l'on veut que le Fils, que le Christ puisse entrer dans notre vie comme il entre dans Jérusalem, il faut que nous soyons capables d'espérer justement et de croire qu'il y a quelque chose de possible et que nous soyons capables même de lui dire « Sauve-nous !» C'est ce que vont dire les disciples sur le chemin des rameaux quand ils disent « Hosanna !» Hosanna, ça veut dire « Seigneur, sauve-nous !» Et donc on lui demande de nous sauver, mais si on lui demande de nous sauver, c'est qu'on croit qu'on peut être sauvé, qu'il y a quelque chose de possible. Et donc voilà, c'est pas forcément facile à trouver. Et Jésus dit à ses disciples, première chose à faire, vous allez là, dans le village, et vous allez chercher un ânon. et une ânesse. C'est-à-dire, vous allez chercher au plus profond de vous-même s'il reste quelque chose d'une capacité à croire que vous pouvez donner quelque chose au monde et que vous pouvez grandir et qu'il y a pour vous un avenir possible. Il faut d'abord essayer de rechercher en soi ce désir fondamental qui dit « je crois dans l'avenir », qui dit « je veux transmettre, je veux donner, et il y a un avenir possible ». Et ça, il faut le chercher. Et même si c'est tout petit, même si c'est microscopique, comme un tout petit anon, probablement pas grand-chose, même si ces petits débuts de foi, de confiance, est comme un grain de moutarde, il faut le prendre et s'en emparer et le mettre dans sa vie, le valoriser, mettre des vêtements dessus, le valoriser comme la chose la plus importante et s'asseoir sur ce petit anon de foi dans l'avenir que j'ai et qui me permettra d'aller bien plus loin que tous les chevaux de bataille. Alors vous disais-je, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile et en chemin on peut soi-même se décourager, mais fléchir. Mais je vous disais, les disciples eux-mêmes crient justement sur le passage de Jésus monté sur cet anon, Hosanna. Et cet Hosanna est pour moi essentiel parce que tout le monde croit que c'est comme Alléluia ou Gloire à toi. Pas du tout. Hosanna n'est pas un cri de louange. Hosanna, c'est un cri, un appel pour dire Seigneur, sauve-nous. Et voilà, Seigneur, sauve-nous. Voilà la prière que nous devons avoir, à la fois de garder ce qu'il y a en nous de foi dans l'avenir, et si parfois nous vacillons, pouvoir dire « Seigneur, sauve-nous ». Et je crois effectivement que ce n'est pas nous qui créerons notre propre avenir, mais que l'avenir sera ce qu'il est, mais que de toute manière, avec Dieu, un avenir sera toujours possible. Quant à cet âne en question, si j'y reviens encore, il s'agit, je vous ai dit, d'un ânon, donc du petit d'un animal, mais ça aurait pu être un autre animal. Finalement, pourquoi un âne? Et là, je m'y perds, pour comprendre un peu plus ce qu'est cette source à laquelle nous devons faire appel. Je m'y perds parce que dans Zacharie 9:9 que je vous ai lu, il y a trois mots différents pour désigner l'âne. En français, on en a qu'un, en fait. Il y a trois mots différents. Alors, j'ai essayé de chercher ce que chaque mot pouvait vouloir dire. Et c'est pas très cohérent. Il n'y a pas beaucoup de raisons pour que dans la Bible, on utilise tel mot plutôt qu'un autre. Et même dans nos évangiles, il y a plein de mots différents dans les différents récits des rameaux en grec. Et il y a ce même flou, ce même flottement. La seule chose dont les évangélistes sont sur lequel ils sont formels, c'est qu'il s'agit d'un ânon, éventuellement accompagné d'une ânesse. Mais l'âne lui-même. Alors l'âne, ce que j'ai trouvé de commun entre eux, c'est que tous les mots hébreux qui veulent désigner l'âne parlent toujours de dynamique, d'énergie, de vie, de mouvement. Chamor, ça veut dire bouillir, écumer, rougir. Haïr, ça veut dire remuer, secouer. Et aton, ça veut dire impétueux, vivace, permanent. C'est aussi le mot qui désigne la fournaise. Et donc, simplement, chacun de ces mots parle d'énergie, de bouillonnement, de dynamique. Et donc, c'est l'énergie vitale. Pour moi, c'est ça, en fait, l'énergie vitale. Et donc, voilà ce que nous devons aller chercher au plus profond de nous-mêmes, cet appel des rameaux. Allez, dit Jésus à ses disciples, allez chercher l'ânon avec l'ânesse sa mère, allez chercher un âne. C'est d'aller chercher au fond de soi-même ce qu'il reste comme énergie vitale, comme source d'énergie, de quelque chose, d'un désir fondamental, de quelque chose qui vous met en mouvement. Et écoutez ce que dit le Seigneur, vous devez dire, pour le prendre, le Seigneur en a besoin. Donc cette énergie-là, prenez-la et mettez-la au service du Christ. Et le but de tout cela, eh bien, c'est, avec cette énergie que vous pouvez trouver, le mettre au service de Jésus pour lui permettre d'entrer dans la ville. Alors, entrer dans la ville, pourquoi ? Ça, cette image me touche d'abord personnellement, et pardonnerai de parler de moi, mais ça ne concerne que moi, je vous le dis quand même. Parce que, en fait, l'idée de faire entrer Jésus dans la ville, et ça a été un des sens fondamentaux de ma propre vocation. Ou si je suis devenu pasteur, c'est vraiment avec l'idée de se dire « Je voudrais qu'il y ait le moyen de prêcher dans la ville, quelque part, ce message de l'Évangile, dire aux gens, écoutez, apprenez à aimer, à pardonner, à servir. Et croyez dans la grâce, dans l'amour, dans l'amitié, dans la générosité, dans la bonté, dans la douceur. Et je me suis dit, il faut pouvoir aller proclamer ce message de vie dans cette grande ville pleine d'agitation, pleine de désordre, pleine de découragement, de haine, de jalousie et d'égoïsme. Et donc j'ai voulu faire ça, et par faiblesse, je suis devenu pasteur, parce que grâce à ça, c'est plus facile à faire, alors que si ce n'est pas cette fonction, finalement, c'est plus compliqué d'en témoigner. Voilà. Mais en fait, d'une façon plus générale, je dirais pour tout le monde, et pour moi aussi et pour vous, faire entrer le Christ dans la ville, c'est le faire entrer dans sa propre ville, c'est-à-dire dans sa vie de tous les jours en fait. Et donc ne pas laisser Jésus rester enfermé dans le temple, dans la prière, dans les rites, dans la vie religieuse, mais de faire en sorte que Jésus soit capable de venir dans sa vie profane, dans sa vie de tous les jours, dans le quotidien de son existence, et justement dans son travail, dans sa famille, dans toute chose, et que Jésus puisse ainsi cheminer en nous comme un roi, surplombant de sa force, de sa paix, et donnant du sens à tous ces événements d'agitation de notre vie. Et pour ça, eh bien, il faut trouver une énergie, il faut trouver une motivation. Et donc Jésus envoie ses disciples en disant « Cherchez bien, trouvez bien cet ânesse et cet ânon, essayez de trouver au fond de vous-même ce qu'il reste de désir, de transmettre, de donner, de partager, d'aller de l'avant, cherchez-le et donnez-le-moi. » Et donc voilà, avec les rameaux, je veux confier à Jésus ces énergies, toutes ces énergies qui sont en moi, les confier à Jésus pour qu'il puisse avancer. Et ces énergies, dans notre vie, elles sont multiples. Ce peut être effectivement des désirs, ce peut être des aspirations, mais ça peut être aussi des craintes, ça peut être aussi des révoltes. Enfin, tous nos sentiments, positifs ou négatifs, en fait, sont des énergies. Voilà. Et toutes ces énergies qu'il y a en nous, on nous dit, vous les prenez là et mettez-les au service du Seigneur pour faire entrer le Seigneur dans la ville, pour les mettre à son service, et lui saura en faire quelque chose. Dans l'évangile de Marc, en particulier dans Luc, il y a en plus une précision qui est étonnante également. Jésus dit, vous trouverez un ânon sur lequel personne n'est jamais monté. Alors pourquoi faut-il que cet ânon soit vierge en quelque sorte? Je me suis dit, mais peut-être qu'il faut, moi je ne peux accueillir le Christ que si je suis totalement vierge. Non, ça ne va pas parce que aucun de nous n'est vraiment vierge par rapport au Seigneur. Nous sommes tous usés, abusés par la vie, par nos désirs, nos désillusions, par nos craintes, par tant de choses, et parfois même par nous-mêmes, par nos désirs insatisfaits ou par nos fautes. Dans notre vie, il y a plein de désirs matériels, et donc aucun de nous ne peut se considérer comme un ânon vierge sur lequel personne n'est monté. Et donc cela veut dire qu'il ne faut pas forcément chercher je dirais à ce que ce soit nous, mais cet ânon, ça va être la part de nous-mêmes, cette énergie en nous-mêmes qui n'a pas d'objet. Et donc voilà, trouver cette énergie qui n'a pas d'objet, peut-être que c'est ça. Autrement dit, tous vos désirs matériels, fichez-leur la paix, vous avez plein de choses à faire, plein d'énergie que vous engagez dans votre métier, dans votre famille, dans votre vie concrète, laissez-les. Mais s'il y a en vous quelque chose qui n'a pas d'objet, une sorte de désir insatisfait, quelque chose dont vous ne voyez pas comment ça peut se satisfaire, eh bien cette énergie-là, confiez-la au Christ. Confiez-la au Christ, donnez-la lui et il saura en faire quelque chose. Ou autre hypothèse, c'est d'essayer de dire que l'on peut peut-être rendre vierge ce qui ne l'était pas. Aujourd'hui, les chirurgiens savent faire cela avec les jeunes filles, on arrive à leur rendre leur virginité biologique, pourquoi pas? Et pourquoi Dieu ne serait-il pas capable de nous rendre vierge nous-mêmes, même si nous avons été un peu usagés, trimballés, fatigués par l'existence, par ce que nous subissons, ou même parfois de notre propre faute, Dieu peut nous remettre à neuf. Alors peut-être que c'est ça aussi. Si nous voulons pouvoir accueillir le Christ, il faut d'abord se retrouver vierge, en quelque sorte. Et donc se remettre, comme c'est un nom qui simplement attend quelque chose. Et tant que vous n'attendez rien, vous ne trouverez rien. Et donc voilà, cette énergie, je vous disais, sur laquelle personne n'est monté, c'est-à-dire il y a une énergie disponible. Et donc nous pouvons rendre disponibles nos énergies. Ça, c'est le travail de Jean-Baptiste, qui, vous savez, plongeait les gens dans l'eau, et les gens en ressortaient comme purifiés, c'est-à-dire comme vierges. Et ils en ressortaient libres de sentiments qui ne mènent à rien, de culpabilité ou autre, et étant libérés, pardonnés et sauvés, je dis, mais Seigneur, j'ai un sentiment de reconnaissance, que ferais-je ? Voilà, c'est ça, cet anon libéré, où tout à coup, j'ai une énergie positive qui, au lieu de se renfermer sur moi-même, tout à coup est disponible et je peux la mettre au service du Seigneur. Et en effet, ça m'a amusé cette histoire parce que il faut apprendre, premier exercice, à se libérer de tout ce qui prétend de nous conduire, nous mener par la bride et le mort. Et il faut arriver à se libérer et à devenir ouvert sur quelque chose de neuf. Et ces qualités développées par l'anon et l'anesse m'intéressent et m'amusent parce que, en fait, c'est exactement les qualités qu'ont exprimées symboliquement l'Église romaine dans le culte marial où Sainte Marie est vue à la fois comme vierge et comme mère, ce qui peut être paradoxal dans le monde d'aujourd'hui, mais néanmoins c'est comme ça. Marie, elle est à la fois vierge et mère. Et donc elle est à la fois l'ânesse et l'ânon, ben voilà, sur lequel personne n'est monté. Et donc en fait, on retrouve là cette espèce de doctrine mariale, ce culte marial qui est intéressant, en disant les deux points fondamentaux pour pouvoir accueillir le Christ, qui est cette maternité fondamentale, ce désir d'enfant, enfin spirituellement, de désir de vie, de transmission, de don, d'aller vers les autres, de donner, de penser à autre chose que soi-même, cette maternité essentielle qui suppose que l'on soit soi-même fécondé par le Saint-Esprit, et aussi cette espèce de virginité, c'est-à-dire cette attitude de nouveauté totale, toujours par rapport au monde, et d'être comme un anon sur lequel personne n'est monté, de disponibilité. Et le Fils avance sur ces deux montures, et c'est tout le dogme marial, mais vous demanderez à un prêtre de vous l'expliquer plus que je ne le ferai là. Après, autre petit détail, je parlais de disponibilité, autre petit détail dans ce texte qui me plaît et que l'on trouve dans la plupart des évangiles, Jésus dit « prenez l'anon » et il dit « détachez-le ». C'est amusant ça, « détachez-le ». Détachez-le, c'est-à-dire, une fois de plus, rendez disponible. Détachez cette énergie possible, rendez-lui sa liberté et acceptez d'être libre. Être libre est une chose plus compliquée qu'il n'y paraît et en fait, nous n'en avons pas toujours envie et souvent, nous nous donnons nous-mêmes des obligations. Et même dans le domaine du religieux. J'ai aussi prêché là-dessus il y a quelque temps, en disant que souvent nous nous imposons dans notre religion des devoirs. On croit être obligé d'être fidèle à la foi de ses parents, à ne pas faire de peine à sa famille et à croire comme tout le monde. Et on se croit obligé à rester dans ce que l'on a appris au catéchisme, dans ce que l'on croit être la foi officielle et traditionnelle. Et combien de personnes est-ce que je vois et qui me disent avec un sentiment de culpabilité, vous savez, moi je ne suis pas un bon croyant, je ne crois pas comme il faut. Eh ben, écoutez, voilà la première chose que vous dit Jésus, cet anon, cette religion, cette foi, ce véhicule sur lequel le Christ pourra avancer, libérez-le. Arrêtez de vous forcer à croire dans ce que vous ne pouvez pas croire. Arrêtez de vous forcer à croire comme croyaient vos parents, de pratiquer comme pratique votre famille ou comme font les autres. Acceptez d'avoir cette liberté fondamentale de l'anon sur lequel personne n'est jamais monté. Ma foi à moi, c'est la mienne, c'est pas celle ni de mes parents, ni de mes amis, ni de mes frères, ni de mes sœurs, ni de mes cousins, ni de qui que ce soit, c'est la mienne. Et ça n'est que comme ça que Jésus pourra avancer d'une façon positive. Et en effet, toutes ces obligations, toutes ces devoirs moraux que nous nous donnons dans le domaine spirituel, finalement, finissent par paralyser notre vie spirituelle. Eh bien, il faut libérer sa vie spirituelle et avancer sur un anon neuf pour être libre pour une foi neuve. Et ça me fait penser évidemment automatiquement à propos d'Annès à l'histoire de Saül. Vous savez, il y a dans l'histoire de dans 1 Samuel 9 l'histoire de Saül, que Samuel veut oindre comme Messie, veut en faire un roi, le roi Saül. Et puis Saül est introuvable parce qu'il est en train de chercher, nous dit-on, les ânes de son père. Ah, on nous dit voilà une histoire d'ânes. Tiens, j'aurais dû commencer par là. Les ânes de son père. Et donc on ne sait pas où est Saül. Et finalement, Samuel va trouver Saül. Les ânes sont toujours perdus et il va le nommer roi. Il va le prendre pour être Messie avant même qu'il ait retrouvé les ânes. D'ailleurs, Saül pense plus du tout aux ânes, il les laisse tomber, il s'en occupe plus. Et après, on lui dit, c'est bon, les ânes ont été retrouvés, mais Saül s'en moque apparemment. Aux enfants de l'école biblique, on explique quoi? On leur dit, c'est une image du salut par la foi. C'est sympathique, Saül, qui cherche les ânes de son père. Et en fait, il les a pas trouvés. Il est nommé avant de les avoir trouvés parce que l'important, c'est la démarche d'avoir voulu les retrouver. Et on n'est pas obligé d'accomplir la perfection de la loi divine pour être sauvé. Il suffit de la désirer de tout son cœur. Et après, on fait ce qu'on peut. Mais j'ai une lecture un peu plus perverse à vous donner, que je ne dirai pas aux enfants de l'école biblique, il faut qu'il n'écoute pas là, c'est peut-être qu'en fait, c'est même pas ça. Peut-être que c'est justement que Saül ne pourra être nommé Messie, Christ en fait, c'est le même mot, roi, qu'à partir du moment où il arrête de se mettre en tête, de retrouver les ânes de son père. Qu'il laisse son père se débrouiller avec ses ânes et qu'il s'occupe des siennes, parce que sinon, il passera son temps à courir après des ânes et il ne sera jamais quoi que ce soit de disponible pour faire quelque chose. Et en effet, cette quête de Saül était en fait un frein, je crois. Et nous devons, comme lui, nous détacher. Nous sommes attachés sans cesse à des arbres, attachés à des croyances, à des pressions familiales. Et si nous voulons servir le Christ, il faut libérer l'ânon. Et pour une fois, monter sur un ânon neuf, pour être un chrétien neuf et pour être dans un pacte neuf, dans une alliance nouvelle avec Dieu. Et oui, tiens, encore cette alliance nouvelle, je continue mon chemin, vous voyez Caïn qui a sur le dos de mon âne. Cette alliance nouvelle, ça me fait penser à ce qui est dit si souvent dans l'Ancien Testament, cette promesse que Dieu fait en disant « Je ferai avec vous une alliance nouvelle, un pacte neuf ». Ça a été traduit par Nouveau Testament, vous le savez, une alliance nouvelle. Et ça, c'est une promesse magnifique que Dieu vient et il dit, moi j'ai noué avec tes parents, avec tes ancêtres, avec ceux qui t'ont précédé, une alliance avec eux, mais avec toi, je fais une alliance nouvelle, toute nouvelle. Et donc Dieu vient avec nous créer une relation neuve qui ne dépend que de nous et qui ne nous concerne que nous. Et les premiers chrétiens avaient eu, c'est vrai, du mal à rompre avec le judaïsme. Et ce Nouveau Testament, cette nouvelle alliance, n'était pas du tout évidente. Mais néanmoins, nous devons comprendre que Dieu veut faire une relation neuve avec nous et nous devons nous présenter à lui sans aucun préjugé, sans préconçu de quoi que ce soit pour dire « Seigneur, je suis avec toi et je suis cet ânon possible qui pourrait te faire véhiculer et te faire avancer dans la ville ». Voici, dit encore l'Apocalypse et Paul également, voici les choses anciennes sont passées et voici que je fais toutes choses nouvelles. Et ce n'est que comme cela qu'on peut, je dirais, faire table rase, non pas qu'il faille forcément se couper de sa famille, mais qu'on fait table rase de tous les boulets de notre existence et pouvoir se libérer de nos craintes, des obligations que nous pouvons nous donner et pouvoir accéder à une vie nouvelle et chaque fois chercher justement cet ânon tout neuf et se dire que chaque jour peut être une nouvelle relation à Dieu, une nouvelle vie, une nouvelle espérance, une nouvelle manière d'avancer et de cheminer. Encore faut-il que nous arrivions à trouver cet ânon, c'est pas évident, que nous soyons capables de le détacher. Et alors que nous puissions partir dans une totale liberté dans notre relation avec Dieu, ce à quoi je ne peux que vous inciter, partir dans une totale liberté dans sa relation avec Dieu et pouvoir du coup avancer ainsi sur cet ânon et pouvoir cheminer avec le Christ qui marche qui nous chevauche, qui nous conduit, qui nous guide, et autour de lui, pouvoir dire que le Seigneur a besoin de cet ânon, oui, ben je le mets à son service, et autour de Jésus, dire comme le faisaient les disciples, ils mettent ses vêtements sur l'ânon, ils mettent ses vêtements par terre, on met tout au service de cette grandeur extraordinaire, parce que nos ânons, nos ânesses, nos désirs inassouvis et tout cela ne mènent à rien tant qu'on ne les met pas au service de quelque chose, et là je choisis de les donner au service d'une parole de vie, qui est celle du Christ, et à laquelle je crie « Seigneur, sauve-nous ». Une parole de vie, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de mettre toute sa vie au service de l'Évangile, dans la ville ou ailleurs, au service d'une parole de paix, de vie, de joie, de pardon, de fraternité, d'amour, de tendresse, et surtout de confiance dans l'avenir, que la vie est toujours possible, et que comme nous le verrons à Pâques, même s'il y a la mort, même s'il y a la souffrance, même s'il y a la passion, tout cela, au-delà de cela, il y a la vie, la lumière et l'espérance. Amen.
Thank you.